Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous éclairer, vous rassurer s'il le faut, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous vous proposons un témoignage, celui d'un grand pédiatre, un des pionniers qui, dans les années 70, a fait partie de ceux qui ont créé la pédiatrie moderne. Il est le père des bébés bulles, notamment. Il est aussi à l'origine de l'opération des pièces jaunes. Il a soigné les premiers enfants atteints par le sida dans les années 80. Alors, je m'arrête là pour son CV. Il est long et prestigieux. Nous recevrons donc aujourd'hui le professeur Claude Griselli. Il publie un livre, L'enfance en défense, la vie passionnée d'un grand pédiatre aux éditions Humaine Science. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque nous rejoindra dans ce studio pour sa chronique beauté consacrée ce jour au charbon, ingrédient de plus en plus présent dans nos cosmétiques. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de confiance. Quelles sont les preuves qu'elle est gagnée dans les jeunes couples?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Marie-Josée. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. On m'a diagnostiqué une maladie de Hashimoto il y a un peu plus d'un an maintenant. Et depuis, j'ai un traitement avec des hormones de synthèse. Mais je prends énormément de poids. À votre avis, est-ce lié à mon traitement? Et si oui, que dois-je faire pour stopper cette prise de poids? Merci d'avance pour votre réponse et à bientôt.
Merci Marie-Josée pour votre question. Et donc pour vous répondre, nous sommes tournés vers une spécialiste. Écoutons ensemble le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol, médecin endocrinologue à Paris.
La maladie de Hashimoto, c'est une maladie où la thyroïde s'arrête de fonctionner. La thyroïde est une petite glande à la base du cou qui fabrique des hormones qui aident notamment au métabolisme. Et donc en général, l'un des symptômes le plus fréquent au moment du diagnostic, c'est la prise de poids. Donc on donne un traitement qui va remplacer la thyroïde qui ne fonctionne plus très bien. Mais parfois, même en prenant ce traitement, la prise de poids continue. Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que peut-être le dosage n'est pas bien adapté. Donc il faut toujours vérifier les mesures par des prises de sang de la TSH qui permettent de savoir si le dosage de traitement que vous avez est bien adapté. La deuxième possibilité, c'est que souvent, la maladie de Hashimoto survient au moment de la cinquantaine, de manière parallèle à l'apparition de la ménopause, qui est une période où, on le sait tous, les femmes ont tendance à beaucoup prendre de poids. C'est une période de la vie où il y a moins de masse musculaire, donc moins de dépenses énergétiques. Et en augmentant l'activité physique, on permet de réinstaurer cette masse musculaire pour continuer d'avoir une dépense énergétique suffisante et éviter la prise de poids.
Voilà, c'était donc le docteur Lecornet-Sokol au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va passer à une deuxième question, celle que nous a laissée Steven pour vous. Écoutez bien.
Je voulais poser une question, c'est concernant ma copine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les matins, elle a des saignements de nez, quelques temps après la douche, mais ça va être inquiétant. Merci, bonne journée à vous.
Jimmy, alors pourquoi une jeune femme, on n'a pas exactement l'âge, Steven ne nous précise pas, mais on comprend bien qu'elle a l'air assez jeune, pourquoi pourrait-on bien saigner du nez comme ça régulièrement en sortant de la douche?
Alors pour bien comprendre, les fosses nasales sont vascularisées par de grosses artères qui partent des carotides internes et externes et qui vont former des petits rameaux qui vont se regrouper autour de ce qu'on appelle une tache vasculaire où l'ensemble des vaisseaux vont se retrouver quasiment à fleur de peau. Et il est possible, après la douche, que cela entraîne une vasodilatation des vaisseaux favorisant un saignement, même si néanmoins saigner du nez tous les jours, tous les matins après la douche, eh bien c'est pathologique.
D'accord, et qu'est-ce qui pourrait expliquer en dehors de cette vasodilatation le fait de saigner régulièrement du nez, ça peut venir de quoi?
Alors la cause la plus fréquente, c'est les causes traumatiques. Lorsque vous recevez un coup dans le nez, évidemment, à ce moment-là vous avez forcément le nez qui saigne, le nez qui n'est pas forcément cassé. Une cause très fréquente, c'est ce qu'on appelle l'épistaxis, c'est le saignement de nez essentiel. Essentiel, c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. On ne sait absolument pas pourquoi des gens vont saigner du nez et vont avoir cette tache vasculaire qui va se mettre de temps en temps à saigner. Mm-hmm. En revanche, on sait qu'il y a certains facteurs déclenchants. Ça peut être la vasodilatation, comme je vous ai dit, liée à la chaleur. Mais ça peut être aussi des phénomènes liés à la puberté, liés aux grossesses ou parfois, dans certains cas, des petites irritations qu'on peut avoir. Une cause plutôt fréquente de la femme un peu plus âgée, ça va être l'hypertension artérielle qui va être mal équilibrée.
Ah,
et lors d'une poussée
ça,
d'hypertension, on peut saigner du nez. En particulier quand on a des personnes âgées qui sont sous anticoagulants. surtout lorsque le traitement est un peu surdosé.
Bon, là, quoi qu'il en soit, elle saigne du nez tous les jours. On ne fait pas de radioconsultation ici, bien sûr, on n'y est pas autorisé, mais il est préférable qu'elle consulte un médecin, ça
évidemment,
c'est clair.
Évidemment, qu'elle consulte son médecin traitant, qu'il adressera certainement à, chez l'ORL pour faire un examen.
Oui, parce qu'il peut y avoir une prise en charge possible. Qu'est-ce qu'on peut proposer
si
à ces gens-là ?
Si jamais l'ORL, avec une petite fibroscopie, il met une caméra dans le nez, il voit que c'est effectivement, il y a une tache vasculaire, il peut la cautériser pour empêcher la récidive. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des causes plus rares de saignement de nez, dont certaines tumeurs. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'anodin. On peut proposer une prise en charge pour éviter justement d'être embêté.
Petit détail technique, on va dire. Vous rappelez-nous, parce que je sais qu'il y a un petit truc contre-intuitif. Beaucoup de gens croient que quand on saigne du nez, il faut mettre la tête en arrière. Et vous, vous dites tout le contraire, je crois.
Exactement, c'est un réflexe qu'on a qui est plutôt mauvais. Si on met la tête en arrière, vous allez avaler les sécrétions, le sang par la gorge. Ça va tomber dans votre estomac et ça va vous faire vomir. Vous allez vomir du sang, persuadé de faire une hémorragie digestive. Or, vous saignez du nez, on penche la tête en avant, on pince le nez pendant 10 minutes, on attend que ça passe. Si ça ne marche pas, on recommence en se mouchant le nez. Le fait de se moucher le nez va évacuer les caillots et on recommence. Et évidemment, si ça ne marche pas, c'est direction l'hôpital pour qu'on mette des mèches.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Steven, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité, c'est le professeur Claude Griselli, grand pédiatre mondialement connu, qui nous fait l'honneur de venir dans ce studio aujourd'hui. Il vient nous raconter son parcours de médecin hors du commun, ponctué de drames et de guérisons, mais aussi des combats, de ses combats, pour que l'hôpital accueille enfin les enfants malades dans des conditions plus douces. Un témoignage très fort à venir, alors je vous le conseille, restez bien sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Claude Griselli, pardon, bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Je vous présente, hein, vous êtes pédiatre et immunologiste, vous êtes mondialement connu pour vos recherches sur les déficits immunitaires héréditaires, vous avez été directeur général de l'INSERM, et je continue hein, parce que vous avez un parcours impressionnant, exceptionnel. Vous êtes aussi à l'origine de l'opération Pièce Jaune qui améliore le quotidien des enfants hospitalisés. Aujourd'hui, vous publiez un livre, son titre c'est « L'enfant sans défense, la vie passionnée d'un grand pédiatre » qui est paru chez Humaine Science. Et c'est ce récit que vous allez nous conter cet après-midi. Vous êtes un pionnier de la pédiatrie moderne et pour vous, on va venir vraiment à la base, à l'origine, tout a commencé dans la chambre blanche de l'hôpital Bicêtre. Vous êtes tout jeune face à la petite Claire, 9 ans, racontez-nous.
Oui, j'ai 22 ans à ce moment-là. J'entre externe des hôpitaux, dans une chambre d'un enfant qui souffre indiscutablement, et je pose des questions. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh, ben, une maladie articulaire. Et pourquoi ? On ne sait pas. Quel traitement ? Oh, il n'y en a pas. Sauf la cortisone à forte dose, qui entraîne des méfaits, comme on le sait, avec les effets indésirés. Et donc, je râle parce que je me dis, bon, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le traiter, ce n'est pas possible. Il faut faire de la recherche sur ce sujet. Je pense que ce jour-là, j'ai compris.
Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière à votre enfance au Maroc. Et à 15 ans, vous vivez votre premier combat contre la maladie. La tuberculose vous arrache d'un coup à une belle vie d'ado sportif. Et surtout, elle vous isole lourdement.
Oui, oui, tuberculose à l'époque, la streptomycine, le rimifon, qui est le traitement principal, était juste sorti. C'était une maladie grave à l'époque, quasiment craignant que ce soit même mortel. Oui, ça m'a beaucoup gêné. Mais à quelque chose, malheur est bon. Donc j'ai compris aussi beaucoup de choses là. Et je comprends aussi les enfants qui ont aujourd'hui encore une tuberculose. Au Maroc, par exemple, 32 000 tuberculoses en 2018. C'est énorme. Et ce qui veut dire que le combat, d'ailleurs, Bill Gates le comprend très bien. Il le fait avec le sida et le paludisme, mais la tuberculose en fait partie.
Vous êtes traité très lourdement et très longtemps, même trop, vous le savez aujourd'hui. Un an quasiment, je crois, isolé, mais chez vous, vous avez été traité à domicile et très fort. Hein.
Oui, c'est comme pour toutes les maladies. Au démarrage, on fait des erreurs. On traite trop ou pas assez. On apprend à le faire. Moi, je sais que j'ai été trop traité pendant 3 ans. J'aurais pu très bien me passer de beaucoup de streptomycine, par exemple, qui entraîne, comme on le sait, une surdité modérée, mais une surdité quand même.
Alors malgré tout, vous concluez cet épisode assez difficile de votre enfance en disant que sans la tuberculose, vous seriez peut-être devenu prof de sport et passé à côté de la médecine. C'est la lecture forcée pendant cet isolement qui vous a guidé vers cette voie ?
Oui, mes copains de l'époque sont devenus profs de tennis dans le sud de la France Moi, je suis devenu prof d'autre chose, c'est tout.
Vous avez beaucoup lu pendant votre tuberculose des livres, notamment sur la médecine, justement.
Ah ben,
et c'est
sûr.
Ça qui vous a ouvert finalement aussi
oui,
à ce monde.
Oui, oui, Le meilleur des mondes en particulier, mais aussi et surtout le livre de Soubiran qui décrit la vie à l'hôpital à l'époque et ça m'a séduit beaucoup.
Alors plus tard, évidemment, vous entamez vos études de médecine, vous arrivez à Paris, parce qu'à l'époque, donc, vous étiez au Maroc. Les années d'internat commencent à Paris, avec notamment ce premier stage à la consultation de la Pitié-Salpêtrière, qui ne vous laisse pas un très bon souvenir, je crois.
Mais oui, interne des hôpitaux de Paris, premier stage...
On est en quelle année, là ?
On est en 1968. Et là, seul médecin de tout l'hôpital. J'ai une dame qui est charmante, mais qui avait une crise d'asthme. Je la traite et je demande à l'infirmière de prendre le pouls, la tension régulièrement, bien sûr, toutes les heures. Et
c'est la nuit, hein ?
La nuit. Et à 6 heures du matin, je me réveille brutalement. Je me dis, qu'est-ce que est devenue cette dame ? Je téléphone tout de suite. Elle me dit, non, elle est décédée. Comment ? Elle est décédée cette nuit et vous n'avez pas appelé ?
Mais vous étiez seul pour 100 patients la nuit, c'est ça ?
Pour 100 patients, non, pour 800 patients.
Ouh là là, oui, d'accord, j'étais encore loin du compte.
Oui, ouais. L'internat des hôpitaux de Paris, à l'époque, c'était assez terrible. Ça a beaucoup changé, bien entendu, heureusement.
Alors, et puis, il y a vos stages en pédiatrie, et là, c'est un réel bonheur. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'ambiance, justement, autour de cette spécialité ?
L'enfant lui-même, et les médecins qui s'occupent de l'enfant. L'enfant... Aller soigner un enfant, c'est extraordinaire. Parce qu'on le soigne et puis c'est pour toute sa vie, quelquefois. Et le médecin qui soigne de l'enfant avait encore, bien entendu, c'est encore meilleur maintenant, beaucoup de sagesse, beaucoup de d'amour même pour l'enfant.
Alors ensuite, pour les jeunes médecins de votre génération, à la fin des études, c'est bien de partir à l'étranger. Pour vous, ça sera direction New York et vous mettez les pieds dans un autre univers, un nouvel univers, celui de la recherche pendant un an. Comment vous qualifieriez ce passage de votre vie ? Parce que vous étiez à ce moment-là complètement éloigné des patients, de la médecine. Hein ?
Oui. Tout en étant interne, j'avais travaillé à l'hôpital Saint-Louis avec le professeur Seligman pour me guérir dans le domaine de la biologie et déjà en immunologie. Et je me suis rendu compte qu'à côté des études de médecine, il fallait qu'il y ait aussi une activité scientifique forte. Et pour l'avoir de façon complète, comme prendre un bain de recherche en quelque sorte, j'ai décidé, avec d'ailleurs l'avis de certains amis que j'aime beaucoup, le François Korisky, je voudrais le citer, il est devenu directeur général du CNRS après, et il m'avait conseillé d'aller aux États-Unis. Et pendant un an, effectivement, je n'ai fait que de la recherche chez l'animal. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte la rigueur. C'est que quand on fait quelque chose et quand on décrit, on ne peut pas tricher. C'est impossible. C'est ça ou rien. C'est 2 et 2 font 4. Vraiment. Vous voyez ?
Mais au bout d'un an, on vous propose un poste à Chicago de continuer finalement la recherche. Vous refusez là. La médecine vous manque trop quand même.
Oui,
hein ?
J'ai de la chance. Je fais une découverte intéressante qui fait qu'on explique mieux la manière de se défendre au niveau du tube digestif. J'annonce ça dans un colloque à Chicago et on est venu me chercher en disant « Est-ce que vous voulez rester avec nous à Chicago, me nommer assistant puis professeur ?» Non, je préférais rester en France.
Allez, retour à la médecine, on y vient dans un instant. Professeur Grisselli, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce récit passionnant avec l'un des pionniers de la pédiatrie moderne. Il reste avec nous en studio pour nous conter son histoire, son parcours et il va nous dire juste après comment il est devenu le père des bébés bulles. Un témoignage fort à suivre, ponctué de drame et de guérison surtout. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Claude Grisselli. Vous êtes professeur de médecine, pédiatre et immunologiste et vous avez notamment dirigé l'INSERM et eu de nombreux autres postes prestigieux. Alors on est ravis de vous recevoir aujourd'hui en plateau pour parler de ce très beau livre, L'enfant sans défense, la vie passionnée d'un grand pédiatre qui vient de paraître chez Humaine Sciences. Et justement, cette vie de grand pédiatre, elle démarre vraiment, je dirais, à votre retour de New York, dont on parlait tout à l'heure, à l'hôpital Necker, le premier hôpital pédiatrique du monde. Hein. Tout le monde, je pense, tous les gens qui nous écoutent connaissent Necker, mais pas son histoire finalement. On va faire un tout petit peu d'histoire avec vous. Pourquoi ça s'appelle Necker ? C'est à cause de Madame Necker, je crois, et ce n'était pas du tout un hôpital pour enfants.
C'est ça, hein. C'était Madame Necker, il y avait d'ailleurs deux centres.
On est en 1700 quelque chose, hein, non?
Voilà,
ça,
c'est ouais. Ça. Je ne me souviens plus de la date. Enfin, on est dans le 18e siècle. Et avec, c'était surtout pour les adultes, d'ailleurs. Beaucoup, il y avait très peu d'enfants. Et il reste aujourd'hui à Necker une partie qui concerne la médecine d'adultes en néphrologie, maladies infectieuses. Voilà. Et le plus grand hôpital de pédiatrique, peut-être pas, mais c'est le premier en tout cas.
Alors revenons à la fin des années 60, début des années 70, des années particulièrement intéressantes. Vous dites dans votre livre, pour les enfants malades, cette décennie, c'est vraiment la naissance de la pédiatrie moderne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on est passé de quoi à quoi?
Alors, quand on passe de ceci à cela, c'est jamais brutal. C'est pas en 1970, il a fallu quand même quelques années, pour pas dire des décennies. Mais on est passé d'une pédiatrie générale à une série de pédiatries spécialisées. Voilà. C'est-à-dire que les pédiatres qui savaient tout faire, ils sont bons les pédiatres, c'est vrai, mais ils ne creusaient pas en profondeur. Une maladie rénale, des maladies rénales, comment les prendre en charge, etc. Et donc, il y a eu des pédiatres impliqués en néphrologie, en cardiologie, en dermatologie, etc. Et moi, j'ai créé simplement, dans le domaine de la pédiatrie, l'immunologie et l'hématologie pédiatrique.
Alors justement, donc des services spécialisés de pédiatrie en fonction des mots par enfant, par maladie. Enfin, vraiment, on a spécialisé la pédiatrie. Et vous, au départ, vous avez 6 lits à gérer sur les 50 du service. Mais vous comblez vraiment un vide, justement, avec cette spécialité hématologie, immunologie pour les enfants. Finalement, des enfants qui étaient atteints de maladies très graves et dont personne ne voulait trop parce qu'on n'avait rien pour eux, quoi, en fait, c'est ça.
C'est-à-dire, d'abord, il y avait les leucémies, effectivement. Et une leucémie, à l'époque, c'était un enfant qui allait souffrir pendant 3 mois. 4 mois, 6 mois, quelquefois, hospitalisé de façon chronique pendant longtemps. Et les pédiatres généralistes, allez dire, ou les pédiatres non encore spécialisés, ont préféré les envoyer. Et donc, brutalement, j'ai eu beaucoup d'enfants atteints de ces maladies-là. On s'est battu. On a mis au point des premières thérapeutiques, les premiers essais thérapeutiques avec l'industrie pharmaceutique, bien évidemment, parce que ce sont eux qui produisent les médicaments et de façon rigoureuse, comme on le fait maintenant pour la Covid, bien évidemment. Et voilà.
Alors vous décidez justement de marier les deux, la médecine et la recherche, car pour soigner, il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette façon de travailler qu'au début des années 70, vous êtes l'un des pionniers de la greffe chez les enfants. Tout commence par un bébé Michel. Le premier bébé bulle, est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, deux choses dans ce que vous venez de dire. Oui, il faut comprendre, parce que si on veut progresser, c'est justement mettre au point des programmes de recherche à partir d'un malade, se poser la question, mais pourquoi? Essayer d'y répondre, et puis revenir au malade si on le peut, et si ce n'est pas lui, ce sera le suivant, ou les suivants.
Qu'est-ce qu'il avait, Michel?
Et Michel avait un déficit immunitaire combiné sévère, c'est-à-dire un défaut complet de l'immunité. Il est né sans production d'anticorps du tout, et sans lymphocytes, on les connaît maintenant, ce sont les lymphocytes T issus du thymus, totalement absents. Il avait déjà perdu 2 frères ou sœurs, et on sait qu'il est atteint. Et on le protège dans une bulle.
C'est là le bébé bulle, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est tout récent.
Une enveloppe plastique, on va dire, pour l'isoler totalement de tout germe, de toute.
Voilà, hein. Dans une enceinte étanche en plastique. Et ça m'est venu, si vous voulez, parce que j'avais justement à New York travaillé dans le domaine.
Sur des souris bulles, en fait. Hein,
oui,
c'est ça.
On élevait aussi, d'ailleurs, à l'INRA en France, des bébés bulles, des souris bulles, en quelque sorte, pour savoir quel est le comportement avec les différentes bactéries qu'on administrait. Et donc, j'ai fait fabriquer une bulle pour Michel. On l'a protégé, on l'a greffé. Il a été greffé. Malheureusement, il avait eu déjà 2 méningites avant qu'on le greffe. Et il avait des signes neurologiques tellement marqués qu'il est décédé au cours d'une complication.
Et puis quelques mois plus tard, il y a la petite Sonia qui pointe le bout de son nez. Et avec cette deuxième tentative, vous devenez le père des bébés bulles.
Oui. Alors, je ne voudrais pas manquer de dire que la première transplantation médulaire pour sauver des enfants atteints de déficit immunitaire grave, qui aboutissent à la mort obligatoire avant l'âge d'un an, a été faite par un grand médecin chercheur, Robert Good, à Minneapolis. J'ai un de mes amis, Jean-Marie Dupuis, qui est lui-même médecin de Paris, qui est un ami d'enfance, qui était chez Good et qui me dit « Tu devrais te mettre à faire des greffes de moelle ». Et effectivement, donc il avait tout à fait raison. Et du coup, on a fait Michel, puis Sonia.
Et Sonia, ça a marché. Et très bien marché.
Oui, alors Sonia, magnifique, parce qu'elle avait déjà perdu trois frères ou sœurs. Et elle a été complètement corrigée. Elle a maintenant 47 ans. Elle est mère de trois enfants.
Enfin, je crois que cette histoire avec vous, elle a influencé sa vie, même celle de son frère, puisque c'est la greffe de son frère qu'on lui a greffée. Hein,
alors, c'est son frère qui avait 4 ans à l'époque, qui était donneur identique en antigène d'histocompatibilité. C'est important d'avoir des groupes communs pour que ça marche. Et son frère, alors les parents étaient, lui, le père était grutier. Et la maman était vendeuse dans une supérette. Et bien, le donneur est professeur de médecine en cardiologie. Il est cardiologue.
Vous l'avez un petit peu marqué, peut-être. Hein,
ah ben oui. Et elle est professeure de biologie.
Comme quoi. Professeur Grisselli, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle un grand pédiatre mondialement connu se livre aujourd'hui et nous raconte quelques-uns de ses combats, des victoires qui ont ponctué son parcours incroyable. Et juste après, il nous dira comment tout au long de sa carrière, il a œuvré pour plus d'humanité en faveur des enfants hospitalisés, notamment en participant au lancement des pièces jaunes. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Claude Grisselli. Vous êtes professeur de médecine, pédiatre et immunologiste et vous êtes mondialement connu pour tous vos travaux, notamment, même s'il y en a tant, hein, ceux des bébés bulles dont on a parlé tout à l'heure. Alors, professeur Grisselli, vous avez consacré votre vie à tenter de soigner, souvent avec succès, des enfants très malades. Mais dans une carrière aussi longue que la vôtre, ben, il y a eu évidemment des échecs et des annonces terribles à faire à des parents. De nombreuses annonces terribles. Il faut avoir, j'imagine, le cœur très, très, très bien accroché pour faire ce boulot de fou, quand même. Parce qu'annoncer à des parents des choses très, très graves comme ça, ce n'est pas évident tous les jours, non ? Même quand on est un grand professeur.
Oui, oui, c'est difficile. Pas seulement pour moi, d'ailleurs, c'est pour l'ensemble de l'équipe que j'ai constituée.
Parce que vous n'avez jamais travaillé seul, hein, c'est important.
Non, non, forcément. On ne peut pas progresser comme ça, tout seul. On a été, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais progressivement, au bout de quelques années, on a été... un groupe de personnes qui fonctionnaient de la même façon. On avait le même esprit. C'est très important d'avoir le même esprit quand on travaille ensemble. Et tous étions à la fois désireux de comprendre, désireux de traiter, mais aussi désireux d'accompagner. Et j'avoue vraiment humblement qu'un jour, même plusieurs fois, j'ai tellement pleuré plusieurs fois d'apprendre que tel enfant que l'on a greffé, on s'est battu, et puis la greffe ne prend pas. Ou un enfant qui vient de naître, et on apprend qu'il est atteint, comme ses frères et sœurs qui étaient décédés antérieurement à la consultation.
Donc l'émotion, elle était là, elle a toujours été là.
Non, mais on ne peut pas faire ce type de métier sans émotion, c'est impossible. Et si se faisait, non, c'est impossible.
Alors, dès la naissance de votre vocation, vous êtes intéressé à l'humanité de la médecine, au bien-être des patients. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais il y a 40 ans, c'était un peu original. Et vous, dès 1969, c'est une priorité, avec notamment l'école à l'hôpital. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, alors, je vous apprends que, effectivement, le bien-être à l'hôpital est important. Qu'est-ce qui est important quand on est hospitalisé, quand on est enfant ? Le jeu, l'éducation, et retrouver ces jouets que l'on a à la maison, et puis ce que l'on a inculqué, c'est-à-dire au fond, l'école. Et comment arriver à avoir une école à l'hôpital ? Je suis allé voir l'inspecteur du 15e arrondissement de Paris. Je lui ai demandé, est-ce que vous ne pouvez pas, on va essayer de faire une tentative, mettre un poste à Necker, ne serait-ce que pour une année, pour voir.
Petite salle de classe aménagée, comme voilà. Ça, dans une,
bon,
une
et
chambre.
Puis, et donc, j'ai supprimé l'une des 6 chambres, vous parliez d'abord.
Vous n'en aviez déjà pas beaucoup, mais vous en avez supprimé une pour faire une petite école.
Oui, donc un sixième du secteur sur lequel je jouais était cassé à l'école. Claudie, elle va m'entendre, je suppose, elle était la première professeure d'école. À l'époque, on les appelait institutrices. Et puis, il y en a eu 18 maintenant à Necker. Et il y en a dans tous les hôpitaux pédiatrique de France.
Et c'est dans ce désir de profonde humanité qui a aussi poussé, qui vous a poussé aussi à participer finalement au lancement de l'opération Pièce Jaune. Ça aussi, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, une énorme aventure.
Oui. Alors, mon passage à New York est important parce que j'avais connu ce qu'on appelle March of Dimes. C'est-à-dire qu'on prend quotidiennement, tous les jours, on passe et on donne une petite pièce qui est le dixième d'un dollar. Et quand le directeur général de la Science publique Opté de Paris, M. Jean Choussa, que j'aimais beaucoup, a voulu créer une fondation, il m'a demandé de l'animer, de prendre la présidence. Et pour trouver des moyens financiers, en plus de ceux que la Science publique ou l'Hôpital de Paris ont bien voulu attribuer à la première fondation qui a été créée, j'ai dit, et pourquoi on ne ramasserait pas les pièces, comme à New York, mais comme elles ne sont pas blanches comme à New York, elles sont jaunes, on va les appeler pièces jaunes. C'est comme ça que c'est arrivé. On a fait d'abord l'Île-de-France, puis on a vu le grand succès qu'on a eu. Alors du coup, on s'est dit, il faut le faire pour l'ensemble
national,
de la France.
Bien sûr.
Et j'ai demandé à mes amis pédiatres de toutes les villes de France, parce que déjà, en tant qu'immunologiste hématologue, j'étais connu par tous ces amis, et je leur ai proposé d'être les ambassadeurs. Et donc, on a créé un groupe comme ça dans tout. C'est parti à toute vitesse, comme ça.
Il y a une histoire touchante dans votre livre, nous remet un petit peu les idées en place, nous qui faisons un peu les bagels parfois face à certains labos, face à certains médicaments. La chance qu'on a finalement en France de les avoir au moins même disponibles, il y a l'histoire de Mohamed qui est diabétique et de son âne.
Ah oui, tiens, vous avez retenu cette
anecdote.
Elle est triste, mais elle nous
remet les idées en place.
Je vais essayer de la rencontrer de façon la plus brève possible. J'ai un de mes amis qui s'appelle Lahrech, qui est la femme de mari de l'ambassadrice actuellement du Maroc au Panama, par exemple. Et qui était chef de service à l'hôpital public de Rabat. Et je vois un petit Mohamed très sympathique, adorable, qui avait un diabète. Et j'ai vu plusieurs fois ce petit Mohamed, comment tu te débrouilles pour le traiter? Bon, ne m'inquiète pas, parce que Radio Maroc offre l'insuline. Il va tous les matins avec son âne au dispensaire pour recevoir l'insuline. Donc il va très bien, oui. Puis un jour, je passe, je dis, alors comment va le petit Mohamed? Il m'est décédé. Oh, décédé, mais qu'est-ce qui est arrivé? L'âne est mort. Et effectivement, son ambulance à lui, c'était l'âne.
Oui, oui.
Et quand il n'y avait plus d'âne, il ne pouvait plus faire les 3 km. Et en tout cas, voilà, c'était terrible.
D'ailleurs, de quel œil vous voyez ce qu'on a assisté cette année, notamment avec l'arrivée de 3 vaccins de façon assez rapide, certainement d'autres qui sont en cours d'autorisation contre le Covid? Ça a été vite, très vite. C'est une prouesse assez inédite, d'ailleurs.
Oui. Ça a été très vite, magnifiquement vite finalement, parce que je trouve que c'est tout à fait exceptionnel. Beaucoup de gens n'y ont pas cru et on voit bien qu'on a de nombreux vaccins possibles. Il faut encore affiner, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Par exemple, avec les nouveaux les variants qui arrivent, il va falloir bien sûr que l'industrie pharmaceutique s'adapte pour combiner à la fois les différentes tenir compte des mutations. Mais je trouve que c'est un succès absolument magnifique.
On aimerait avoir votre avis de façon d'ailleurs un petit peu plus globale, peut-être sur cette campagne de vaccination. L'avis d'un grand médecin qui a vécu des moments cruciaux dans la santé en France, ça nous intéresse, notamment même vis-à-vis du professeur Alain Fischer, qui est monsieur vaccin en France. Vous trouvez qu'on se débrouille comment sur le déploiement de cette campagne en France?
Bon, d'abord, puisque vous parlez d'Alain Fischer, on se connaît.
Il a été votre disciple. Hein.
On s'est vu encore hier. On se connaît depuis plus de 50 ans, 51 ans. Et c'est en quelque sorte, j'ose le dire, mon fils spirituel. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup d'estime. Et effectivement, il a été choisi comme pour être... Il n'aime pas qu'on dise qu'il est monsieur vaccin. Enfin, c'est quelqu'un qui avait été demandé par Mme Touraine pour proposer
la vaccination les
11
pour
vaccins
les enfants,
obligatoires
oui,
pour
sûr.
Les enfants. Et tout naturellement, c'est normal que l'exécutif actuel s'adresse à lui. Bon, il fait des choses magnifiques, il le fait très bien, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence, avec grande objectivité, ce qui est très important dans son rôle, mais le rôle de tout médecin ayant fait de la recherche.
Mais ça va assez vite, selon vous, la campagne de vaccination en France? Il y a des pays qui ont été beaucoup plus rapides que nous. Hein.
Le Maroc, d'ailleurs, a été vacciné.
C'est vrai, nous sommes un grand pays, assez peuplé. C'est vrai qu'en Écosse, ça a été très vite.
Au Maroc,
ça va, c'est pas si mal que ça. Bon, mais on va arriver à greffer tous ceux qui ont, le président de la République l'a annoncé, à la fin de l'été, je pense, que la plupart des personnes qui veulent, elles veulent être vaccinées le seront. Mais je voudrais parler des enfants. Les enfants sont intermédiaires entre les différents adultes. Et comme pour la grippe, l'enfant peut très bien, même s'il est peu touché par la Covid, peut très bien transmettre. Et un jour viendra où, pour que l'effet collectif de la vaccination soit complet, l'enfant soit vacciné aussi.
Très bien. Professeur Griselli, merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi, de vous être livré à ce micro sur Europe 1 pour ceux qui voudraient avoir encore plus de détails sur votre parcours incroyable. Je rappelle votre livre, L'enfant sans défense, la vie passionnée d'un grand pédiatre, paru chez Humaine Sciences. Merci encore.
Merci, merci madame.
Europe 1.
Dans un instant, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque va nous rejoindre dans ce studio pour sa chronique beauté, consacrée ce jour au charbon, ingrédient de plus en plus présent dans nos cosmétiques. C'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Et aujourd'hui, Benjamin, on va parler des cosmétiques à charbon, au charbon, je ne sais pas comment on dit.
Eh oui, mais pas n'importe quel charbon, Mélanie, hein. C'est pas celui qu'on va mettre dans le barbecue.
Ah bon ?
Je vous rassure,
là dans la chicha.
Ce Jimmy, t'es hyper intéressé.
Ni dans la chicha.
Il adore
ni
le
dans
barbecue.
La chicha. Là, dans nos cosmétiques, on parle de charbon végétal, puisque comme le dit Céline Herbeau de la marque Coslis, ce sont deux charbons obtenus de façon totalement différente.
Un charbon pour faire son barbecue, qui va être destiné à être brûlé, sera chargé en goudron. Le goudron n'a aucun intérêt en cosmétique, et donc cette fois-ci, il est brûlé avec une vapeur d'eau montée à jusqu'à 900 degrés. En cosmétique, le charbon est souvent issu de coques de noix de coco, de bambou. Classiquement, les végétaux peuvent tous être transformés en charbon.
Résultat, aujourd'hui, la plupart des marques, qu'elles soient bio ou pas, eh bien, rajoutent du charbon végétal dans leurs produits cosmétiques.
Et justement, Benjamin, pourquoi est-ce qu'on nous met du charbon dans nos soins cosmétiques ?
Eh bien, cette grande qualité du charbon, c'est qu'elle absorbe en fait les impuretés, hein, comme nous l'explique la dermatologue Nina Ross.
En fait, le charbon végétal, c'est une molécule, une substance qui va être une pompe à déchets, qui va absorber très facilement dans la peau les résidus de sébum, les débris de cellules, mais également les toxines, les particules de pollution, tous les débris de maquillage. Donc c'est vraiment une pompe à saleté qui est remarquablement intéressante et qui va convenir en particulier aux gens, aux personnes qui ont la peau grasse, mixte, à tendance acnéique ou encrassée par la fumée de cigarette ou la pollution urbaine.
Et ce charbon végétal n'est pas destiné à rester sur la peau, hein. C'est un désincrustant. C'est pour ça qu'on va le retirer. Il est essentiellement dans tout ce qui est masque, gommage. Donc il va agir quelques minutes et ensuite on va le nettoyer pour retirer les saletés qui vont avec. Et puis le charbon, vous vous en doutez, c'est noir. Donc c'est pas glamour si on doit le garder sur le visage toute la journée.
Bah oui, c'est noir. Et pourtant, Benjamin, pourtant, on le trouve dans nos dentifrices. Moi, ça m'a toujours étonné.
Oui, puisque l'autre propriété du charbon, c'est de blanchir, hein, puisqu'il va fixer toutes les noirceurs, les saletés. Donc faire disparaître vos taches dues au café, à l'alimentation ou au tabac. Le problème, c'est que de ce fait, il est extrêmement abrasif, hein, donc à utiliser une fois de temps en temps, puisqu'il peut abîmer votre émail et donc fragiliser vos dents.
Et d'ailleurs, je crois qu'on peut aussi le manger, ce
charbon.
Il y a
que ça qui vous intéresse, vous, oui, c'est manger
la
toujours.
Bouffe. Vous savez, on peut en trouver en pharmacie ou en magasin, hein, du charbon végétal sous forme de poudre ou de gélules à avaler. Certains font même des cures détox de charbon, puisque comme l'explique le docteur Catherine Lacronière, qui est médecin nutritionniste, le charbon a des vertus bien-être que l'on ne connaît pas toujours.
Le charbon actif qui va rester dans le tube digestif parce qu'il ne passera pas à travers la barrière intestinale. Et là, il va piéger, capter, absorber des substances indésirables, en particulier des gains intestinaux. Pour les gens qui souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, il pourra également être intéressant pour se débarrasser de toxines quand on a fait une intoxication alimentaire ou encore en cas de gastro-entérite. Enfin, il peut même être conseillé pour aider à lutter contre des taux un peu trop élevés de cholestérol ou de triglycérides, c'est-à-dire de graisse.
Bah vous voyez, Jimmy, pour vos gaz, ça a l'air idéal. Hein,
on a la sénation Elrac. C'est celui qui dit qui est. Hein, mais ouais.
Alors, prudence tout de même avec ce charbon avalé, hein, puisque comme l'a précisé le docteur Lacronière, il absorbe les résidus, hein, donc potentiellement, vos médicaments donc rendent votre traitement moins efficace. C'est pour ça qu'on conseille d'espacer de 2 heures la prise d'un médicament et le charbon pour éviter ce genre d'interaction.
Très bien, Benjamin, merci beaucoup. Jimmy, vous ne mangez pas le charbon, vous avez compris. Si vous prenez des médicaments, par contre, contre ce que vous avez, ça peut être utile. Hein.
C'est noté, merci.
Très bien, merci à tous les deux.
sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis, pour cette ultime séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question de Valentine. On l'écoute.
Bonjour, merci pour votre émission. Alors en fait, mon copain ne veut pas que l'on retire le préservatif alors qu'on est ensemble depuis 8 mois déjà. On s'est pourtant fait dépister. Moi, je me pose vraiment la question, pourquoi il ne souhaite pas faire l'amour sans cette protection ? J'ai l'impression d'être vraiment une fille de passage. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, de votre point de vue de professionnel ?
Bah oui, on veut votre vie de professionnel, Catherine, parce que c'est vrai que 8 mois après s'être fait dépister ensemble, je dis pas que c'est pas bien, mais peut-être qu'il fait, elle est pas toute seule, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi on ne voudrait pas retirer cette protection 8 mois après tant de précautions, quoi, surtout.
Qui sont louables, toutes ces précautions, bien sûr. Alors c'est amusant parce que. Évidemment, vous n'entendez que le risque de contamination. Mmh. Mais il y a aussi des bébés qui se font par la sexualité. Et quand bien même elle prendrait la pilule, eh bien, il n'est pas maître de la situation, maître de ses oublis ou pas. Et un homme peut se sentir très engagé amoureusement, mais pas du tout prêt à affronter
une éventuelle grossesse,
une paternité, un engagement à vie pour l'heure. Et il a besoin d'être dans cette sécurité, notamment. Il y a cette possibilité.
Non plus, Jimmy, je sais pas si ça vous
Ah, c'est la première chose à laquelle je vais penser.
Ah oui, mais voilà, c'est donc une réflexion d'homme, du coup, c'est vrai, j'avais pas pensé
voilà,
à ça.
Parce que
du
vous prenant la pinule, vous allez vous dire, il n'y a pas de risque, le seul risque, voilà.
Mais bon, d'accord.
Tandis qu'un homme va dire, oui, mais est-ce qu'elle prend bien la pilule et si elle fait des loupés, et si est-ce que je veux un enfant
et ça peut être angoissant, bien évidemment.
Un chef m'avait dit, la confiance n'élimine pas le contrôle. Donc malgré tout, je pense que c'est pour ça qu'il accepte le préservatif. Mais si on poussait le raisonnement un peu plus loin, si c'était vraiment une histoire de contraception, si elle lui proposait, elle disait, tiens, Je suis prêt à mettre un stérilet. Tu as peur que j'oublie de mettre.
Il voudra venir au moment de la pause pour être sûr qu'il est bien posé.
J'ai un stérilet. Le stérilet est plus efficace que le préservatif. Mm-hmm. Et si malgré tout il refuse, est-ce que c'est peut-être une histoire justement d'aller voir à droite ou à gauche et en disant je ne vais pas prendre de risque et je vais être clean dans la tromperie en mettant un préservatif.
Alors, ça, bien sûr qu'il y a ce sujet qui peut être là, et c'est d'ailleurs toute son inquiétude, c'est le sentiment d'être une parmi plein d'autres, avec du coup quand même une bienveillance, comme vous l'aurez dit.
Elle là, il voit ailleurs, justement, il n'a peut-être pas confiance en elle.
Vous
n'aviez pas pensé à ça non plus. Ouais.
Donc vous voyez, selon de quel point de vue on se place, on ne voit pas les choses sous le même angle, effectivement. On peut imaginer que c'est un homme qui, ayant d'autres aventures, fait attention de ne pas être contaminant pour les unes et les autres.
Ou alors il se dit, vu que j'ai des aventures, elle en a aussi sûrement plein, donc
Et elle est-elle rassurante, etc. Mais il n'y a pas que ça encore. Il y a des hommes qui ont aussi une anxiété par rapport à la notion justement de mélange de fluides. C'est pas parce qu'on est engagé émotionnellement qu'on est prêt à tout partager, des émotions, etc. Et les fluides, c'est-à-dire que éjaculer dans le vagin d'une femme ou être lui-même badigeonné de la lubrification de la femme peut être aussi source d'angoisse pour un homme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la sexualité n'est pas qu'une question pratico-pratique. C'est vraiment une histoire émotionnelle, où viennent s'en mêler des tas de choses qui échappent parfois même au conscient de la personne elle-même.
Et du coup, on n'insiste pas, en fait, dans ces cas-là, puisque si on a...
Il ne dira jamais la question.
Mais il va me dire, oui, écoute, c'est parce que je vais voir à droite ou ailleurs, ou parce que je n'ai pas confiance en toi. Il va y avoir du mensonge. Mais ça veut dire qu'il faut faire avec en attendant, peut-être... Est-ce que c'est une preuve d'amour de retirer le préservatif à ce moment-là ou comment elle fait
Je crois qu'il faut déjà... La preuve d'amour n'est pas de se mettre en danger si on y voit un danger, quel qu'il soit. Une femme qui pousserait un homme à enlever son préservatif, alors que lui peut-être la protège, mais ne peut pas, parce que pour l'instant il est peut-être entre deux eaux, et puis il va aller petit à petit, chemin faisant, vers cette relation. Si pour lui montrer qu'il l'aime, il l'enlève et la met en insécurité, c'est tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut voir la qualité réelle.
J'ai l'impression qu'elle le voit comme une preuve d'amour, en tout cas. Hein.
En tout cas,
d'enlever le préservatif. Hein,
c'est ça, puisqu'elle dit qu'elle pense être un établissement de relation, puisqu'elle pense être une femme de passage.
C'est comme ça souvent dans beaucoup de couples. Quand on enlève le préservatif, c'est qu'on est plus sûr du couple, quoi, c'est ça.
Voilà, mais peut-être qu'encore une fois, tout le monde n'ouvre pas son appartement, tout le monde n'ouvre pas son compte en banque.
Tout le monde ne partage pas son petit pot à brosse à dents.
Tout le monde ne se brosse pas les dents dans la même salle de bain en même temps. Vous voyez, il y a des tas de choses, des tas d'intimité, et peut-être qu'avoir un préservatif, c'est une façon de se préserver un peu de ce partage d'intimité qui peut être psychiquement
Il va dire une bêtise, j'en suis sûre.
Il accepte de mettre son zizi dans le vagin. Excusez-moi, l'intimité, elle est déjà rompue. Je vois pas en quoi le préservatif serait...
Maintenant, vous avez raison, Jimmy, sauf que il y a certaines femmes qui vont me dire, d'une certaine manière, qu'il ne s'est rien passé. quand il y a eu un préservatif et qui s'est passé, par exemple, dans le cas d'infidélité. Quand elles ont été infidèles avec préservatif et infidèles sans préservatif, elles considèrent l'infidélité que le sans préservatif. Comme quoi, l'imaginaire fait changer la relation à la situation. Mais sinon, vous avez raison, c'est un acte sexuel, qu'on le veuille ou non.
Merci beaucoup Catherine et Jimmy pour tous vos conseils précieux, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.